Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de Fronde.
Salut à toutes, salut à tous. Vous êtes sur FPP 106.3 et vous écoutez Langue de Fronde.
On a eu envie de parler de la Palestine, de l'écouter vivre encore ici. Parce qu'elle occupe les pensées de nos amies palestiniennes en France et qu'elle occupe les nôtres.
Qu'elle est dans les manifs et soirées de soutien auxquelles nous participons, dans les livres et les articles que nous lisons.
On voulait l'écouter résister sur nos ondes.
L'idée de cette émission commence devant les tables de documentation de Samidoun,
qui est un réseau international de solidarité avec les prisonniers et prisonnières palestiniennes, en première ligne de la criminalisation du soutien à la Palestine en France.
Sur ces tables, des fascicules contenant des textes de prisonnières palestiniennes enfermées dans les prisons coloniales israéliennes.
Il y a leurs visages sur les couvertures.
Elles sont toutes différentes.
Elles sourient ou pas.
Elles sont très jeunes ou plus âgées.
De Cisjordanie ou de Gaza.
Elles ont toutes été emprisonnées, ou le sont encore.
Pour des mois, des années, plusieurs fois.
Elles s'appellent Layan Kayed, Khalida Jarrar, Isra Lafi, entre autres, et nous ne savons presque rien d'elles.
Et puis il y a la lecture de l'article du Monde diplomatique, « Palestinienne emprisonnée, une histoire de résistance », paru en janvier 25 et écrit à quatre mains par Hélène Servel et Asia Zaino, respectivement journaliste et chercheuse.
Comme le dit l'essayiste palestinienne Nada Elia dans son livre « Palestine, un féminisme de libération ».
Notre féminisme n'est pas une force politique comme les autres, qui ne consiste qu'à demander l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société telle qu'elle est.
Non, il s'agit d'une force de transformation.
Cette émission commence donc avec des sons de la manifestation du 8 octobre 24 à Paris,
appelée à l'initiative de l'Assemblée féministe Paris-Banlieue,
pour la fin du génocide en Palestine.
Et nous faisons nôtres toutes les paroles prononcées ici.
Et puis vous entendrez l'enregistrement d'une rencontre datant du 20 mars 2025 avec Hélène Servel et Asia Zaino autour de leur passionnant article.
Et enfin, nous avons voulu lire des extraits du texte « La prison comme un texte » écrit par Layan Kayed lors de son incarcération par le régime colonial israélien dans la prison de Daimon en 2021.
Aujourd'hui, avec elle toute, la force transformatrice est partout.
Palestine vaincra. Bonne écoute.
Je remercie l'AG Féministe Paris-Banlieue qui a initié cette manifestation extrêmement importante contre l'armement d'Israël. Nos organisations féministes ont elles aussi leur rôle à jouer parce que c'est toutes et tous ensemble qu'il faut lutter. Dans nos syndicats, dans la rue, dans les entreprises d'armement, dans les ports et dans les aéroports, pour obtenir l'arrêt total de tout commerce d'armement avec Israël et la fin de ce génocide. Merci.
Ce jour est pour nous féministes l'occasion de rappeler l'urgence de mettre fin à cette violence coloniale et à la complicité active de la France. Nous exigeons que notre pays cesse immédiatement ses ventes d'armes et de matériel militaire à Israël et nous appelons clairement à la fin du massacre colonial à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Dans ce contexte, il est crucial de dénoncer un phénomène insidieux qui se déploie aussi bien en Israël qu'en France, le fémonationalisme, ou l'appropriation des sujets féministes à des fins militaristes et nationalistes. En Israël, ce mécanisme prend une forme particulièrement sophistiquée avec la glorification de l'implication des femmes dans les forces armées. Des vidéos mettant en scène des soldates, comme celle de l'unité tankiste du bataillon Caracal le 7 octobre dernier, sont diffusées massivement pour promouvoir l'idée d'une armée égalitaire et progressiste où les femmes jouent un rôle essentiel dans la défense de la nation.
Je voudrais le dire ici, en tant que militante trans, en tant que militante LGBT, je voudrais faire une promesse. On va toujours combattre les violences coloniales, même quand elles essayent de se couvrir de paillettes. Je le dis comme l'ont dit les militants juifs anti-zionistes dans le monde entier. Je le dis comme l'ont dit ces jeunes juifs qui refusent le service militaire en Israël et qui sont envoyés en prison. Ce génocide ne sera pas mené en notre nom.
Palestinienne est une cause féministe car elle incarne la lutte pour la liberté, la dignité et la justice pour tous. Dénonçons. Perturbons, occupons, nos luttes sont liées. Désarmons le fémonationalisme et le pinkwashing en Israël comme en France et construisons une solidarité féministe véritablement internationaliste.
On nous racontait pendant des années que Israël c'était un havre de paix pour les LGBT, que Israël c'était la seule démocratie dans le Moyen-Orient. Mais qu'est-ce qui se passe dans les prisons israéliennes où sont détenus des milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes palestiniens? Qu'est-ce qui se passe dans Sde Taïman où des hommes palestiniens sont violés avec des matraques, où ils sont passés à tabac, où ils sont torturés par la faim? Et quand les faits de torture dans Sde Taïman ont été révélés et que la justice israélienne a tenu un procès symbolique pour discipliner les soldats, quelle a été la réponse de l'extrême droite israélienne? Elle a organisé des émeutes massives pour soutenir le droit de torturer, de violer et de tuer les prisonniers palestiniens. C'est ça les valeurs démocratiques israéliennes dont on nous parle. Dans le même temps, les femmes palestiniennes sont désarmées et humiliées par l'armée israélienne. Elles sont incarcérées, elles sont privées des besoins matériels les plus élémentaires. À Gaza, elles subissent des accouchements et césariennes à vif en raison du manque d'équipements médicaux. Elles manquent d'équipements et de produits d'hygiène de première nécessité. Elles sont exposées à des violences sexuelles et sexistes exacerbées par l'état de guerre et de siège. Mais je voudrais le souligner, les femmes palestiniennes ne sont pas juste des victimes de l'armée d'occupation. Les femmes palestiniennes résistent à l'occupation coloniale. Elles résistent dans les geôles israéliennes. Elles résistent dans les campements de réfugiés. Elles résistent malgré le froid. Elles résistent malgré la faim. Elles résistent malgré les bombardements. Et je voudrais les saluer.
La Palestine en elle-même, de toute façon, est une boussole morale et intellectuelle, éthique et féministe de toute façon.
Mars 2025, à la Cité Audacieuse à Paris, rencontre organisée par les Amis du Monde Diplomatique avec Hélène Servelle et Assia Zaino autour de leur article « Palestinienne emprisonnée, une histoire de résistance ».
Hélène Servelle est journaliste indépendante. Elle travaille sur des questions d'exploitation au travail, de discrimination et de migration. Assia Zaino est doctorante en histoire et anthropologie à l'INALCO, associée à l'IFPO, territoire palestinien. Son travail de thèse, entamé en 2022, porte sur les différentes formes de résistance des prisonnières politiques palestiniennes dans les prisons coloniales israéliennes.
Est-ce que là, oui, on entend ? Oui, super. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Hélène Servelle. En fait, ce travail en commun, il a commencé, je crois, en réalité, bien avant janvier dernier, évidemment. On a toutes les deux des liens très forts et quand même relativement anciens avec la Palestine, pour y avoir vécu... plus ou moins longtemps chacune, et pour avoir toujours des attaches très fortes là-bas. Et évidemment, le 7 octobre 2023 nous a évidemment beaucoup touchés, beaucoup mis en colère. Et, en tout cas, moi, j'ai en tout cas été dans une espèce de tétanie et de sidération pendant plusieurs mois. On s'est retrouvés aussi avec Assia dans cette d'état un peu, enfin en tout cas depuis la France, là, à avoir des nouvelles, à recevoir des nouvelles voilà, des nouvelles terribles, hyper préoccupantes, quoi. Et c'est à ce moment-là où j'ai proposé à Assia qu'on extrait sa matière immense et très riche pour en faire quelque chose, un article en tout cas accessible, et essayer de proposer un peu une compréhension. Alors voilà, même dans une double page du diplôme, c'est pas évident de proposer un texte qui visibilise et rend hommage et aussi, enfin, historicise aussi cette lutte des prisonnières palestiniennes qui est en fait largement silenciée, en tout cas en France. Il y a eu beaucoup d'arrestations au moment du 7 octobre, mais bien après, puis des arrestations, puis des libérations, puis des redésarrestations, etc. Donc ça nous a, enfin voilà, on s'est dit, faisons quelque chose de cette matière ensemble, et faisons aussi sortir cette matière aussi du seul cercle académique de l'université. Et voilà, en gros.
J'ai pas beaucoup à rajouter, mais je pense qu'il était aussi important de... Justement, les mois qui ont suivi le 7 octobre ont aussi été marqués par à la fois une forme de sidération, mais aussi une forme de censure très large dans le milieu universitaire, enfin dans le média, dans la rue. Et du coup, donc, les premiers mois qui ont suivi le 7 octobre, il y a eu des formes de censure ou d'autocensure à l'université, de beaucoup de chercheurs. Il y a eu une répression vis-à-vis des étudiants qui prenaient la parole. Bah, récemment, on l'a vu à Sciences Po et dans d'autres universités. Et donc, c'était nécessaire aussi d'occuper la place, de prendre la parole, et de prendre la parole aussi en dehors, donc à la fois dans le milieu universitaire et en dehors, pour que ces histoires de lutte circulent. Et notamment parce que la question des prisonniers et des prisonnières, tout en étant centrale dans les rapports, dans les enjeux des dominations coloniales et des luttes anticoloniales qui façonnent le quotidien des Palestiniens et des Palestiniennes, sont souvent... en tout cas minimisé, où il y a moins d'attention sur la question des prisonniers, alors que c'est vraiment central. Là, on a entendu au moment des libérations, on connaissait tous les détails, tous les visages des prisonniers israéliens qui ont été libérés. Et toutes ces milliers, ces centaines de prisonniers et des prisonnières qui sortaient, on n'en savait rien. C'était un peu comme s'ils tombaient du ciel, on ne savait pas pourquoi ils étaient en prison, quelles étaient leurs histoires. Et donc, c'était aussi un peu l'envie de visibiliser leur lutte, leur histoire.
Juste pour rajouter quelque chose, je crois qu'on s'est aussi retrouvé sur cette question de la censure, évidemment dans la sphère académique, mais aussi évidemment dans la sphère médiatique, où suite au 7 octobre, c'était quand même très très compliqué, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment eu une période où je pouvais plus écouter les médias français parler de la Palestine. Vraiment, c'était très compliqué. Il se trouve que j'ai fait aussi un travail de mémoire, pour le coup, pas de thèse, mais de mémoire universitaire, sur la question de la sociologie des journalistes européens, enfin occidentaux, et en particulier français et françaises en Palestine, en Israël, et un peu pour essayer de débaucher une espèce de sociologie un peu des conditions de fabrication de l'information en Palestine et en Israël par des journalistes français et françaises en l'occurrence. Et en fait, il y a plein de paramètres très matériels qui expliquent que, en fait, l'information qu'on reçoit ici en France sur cette région-là et soit biaisé, soit partiel. Déjà, depuis très longtemps, alors je parle avant le 7 octobre, une espèce de désintérêt de la question palestinienne, parce que littéralement, il y a des journalistes qui s'entendent dire, en proposant des sujets sur la Palestine, oh, ça va la Palestine, de toute façon, il y a rien qui change, donc de toute façon, on va pas écrire un truc, on va faire des trucs sur quelque chose qui change pas, c'est toujours la même chose, quoi, on entend toujours la même chose. Donc voilà, ce qui témoigne d'une méconnaissance absolue et d'une ignorance absolue de la société palestinienne, qui est, comme toute société, mouvante, multiple, complexe. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a du sexisme, du racisme, enfin voilà, comme partout, quoi. Et que pourquoi on raconterait pas ça aussi, comme on le raconte dans tous les autres pays du monde. Voilà. Et par contre, dès qu'il y a une explosion, une bombe... des roquettes tirées par le Hamas sur Israël, etc. Là, oui, tout de suite, il faut absolument réagir. Et par ailleurs, il y a des choses très, comme je disais, très matérielles qui, moi, j'ai constaté, par exemple, mais c'est le cas dans, je dirais, tous les pays arabophones, en tout cas, voilà, quand les journalistes vont s'installer là-bas pour être correspondants, correspondantes, ou pour être indépendantes, ces personnes-là, pour l'immense majorité d'entre elles, ne parlent pas un mot d'arabe. et très peu aussi par l'hébreu, en l'occurrence en Palestine-Israël, quoi. Et déjà, alors que de la même manière, si quelqu'un va être correspondante à Berlin ou à Rome ou à Madrid, évidemment qu'on va lui demander de parler allemand, italien ou espagnol. Et si c'est pas le cas, on va lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à Berlin, en fait, pour être journaliste, tu vas rien comprendre à ce qui t'entoure. Là, la question ne se pose pas du tout, à aucun moment. Voilà. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Et par ailleurs, il y avait aussi des questions de classe aussi entre les journalistes correspondants, correspondantes qui avaient un poste, etc. Et les autres qui étaient pigistes. Et donc les postés étaient plutôt, étrangement, plutôt du côté de Jérusalem-Ouest ou Tel Aviv, et les autres étaient plutôt dans Ramallah où c'est moins cher, déjà, premièrement. C'est beaucoup moins cher de se loger. Voilà. Moi, j'ai pu observer déjà un peu tout ça. Et puis ensuite, clairement, en Europe et en France, peut-être en particulier aussi, il y a une question... on a une histoire coloniale qui est aussi en partie liée à la Palestine, qui fait que de parler de la Palestine, des Palestiniens, des Palestiniennes, des Arabes, de manière générale, c'est toujours un peu compliqué, quand même. Je ne peux pas prétendre expliquer pourquoi il y a un trou noir médiatique là-dessus, mais en tout cas, c'est clair qu'en tant que journaliste, de parler, d'écrire sur la Palestine et de continuer à parler de la Palestine, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, on nous demande de nous justifier, de défendre pourquoi, enfin d'expliquer pourquoi on parle de ça encore, et toujours de se positionner par rapport à toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Juste peut-être pour dire que dans cet article qu'on a écrit ensemble à quatre mains, on a aussi, y compris dans le monde diplomatique, on a négocié à quelques endroits des mots, des formulations, des expressions qu'on ne souhaitait pas apparaître dans l'article pour des raisons politiques. Il se joue à cet endroit-là aussi le tournoir médiatique, c'est-à-dire qu'on emploie des mots qui ne... Enfin, les mots ne sont pas neutres, j'imagine que vous le savez, mais lors d'une relecture de notre papier, dans une nombreuse relecture de notre papier, mais très riche et intéressante au demeurant, la personne qui nous a relu, a écrit le mot « otage » pour parler des otages israéliens et israéliennes. Et d'autant plus quand il s'agit, là on est en train d'écrire un papier sur les prisonnières palestiniennes, d'utiliser ce mot, une personne otage, il s'agit d'une personne otage prisonnière pour des raisons politiques. Et pourquoi on utilise otage pour les personnes israéliennes et pas otage pour les personnes palestiniennes? Nous, ça nous paraissait inconcevable d'utiliser ce mot, et en particulier parce qu'on était bel et bien en train d'écrire un papier sur les prisonnières palestiniennes. Et ça a été tout de suite compris, et voilà, il y a une formulation qui a fait disparaître ce mot-là. Mais en tout cas, je crois qu'on a été submergés d'articles ou de reportages qui utilisaient vraiment des mots, alors soit sans les connaître, soit en répétant des choses sans vraiment y réfléchir, soit à dessein utiliser des mots hautement politiques la plupart du temps, malheureusement. Contre le narratif palestinien, en tout cas, ou les narratifs palestiniens, et reprenaient à leur compte des narratifs clairement israéliens, ou en tout cas coloniaux et violents, sans se poser la question, ce qui est peut-être même plus grave que quasiment que d'en avoir conscience. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a écrit cet article en ayant vraiment une vigilance très très grande, et employons les mots, les vrais mots, quoi, les mots qui décrivent ce qui est en train de se passer et qui décrivent la réalité de ces femmes prisonnières palestiniennes.
L'écriture nous offre une échelle pour regarder les choses avec un peu de hauteur, pour assembler les événements aléatoires et minimes en un puzzle plus grand et plus significatif. Grâce à elle, nous brisons notre isolement et ses conséquences psychologiques, sociales et intellectuelles, et nous devenons, du moins dans notre esprit, des sujets et des objets faisant partie d'un ensemble plus vaste d'événements. Nous vivons la prison comme un texte, tout en dépassant ses récits de bravoure ou de souffrance, et en allant au-delà de notre identification en tant que simple prisonnier, pour errer aux sources de nos identités et de nos convictions. Layane Kayed, diplômée en sociologie, étudiante et militante au sein du pôle étudiant démocratique et progressiste à l'université de Birzeit en Cisjordanie, a écrit ce texte en 2021 alors qu'elle était incarcérée par le régime colonial israélien en raison de son militantisme.
Elle sera réarrêtée en 2023 et en 2024 et a été libérée en décembre dernier.
Déjà, il est important de rappeler que le mouvement des prisonnières palestiniennes fait partie intégrante du mouvement plus large des prisonniers et des prisonnières palestiniens. Et que donc il ne faut pas forcément les considérer à part, comme parfois arrive quand il y a aussi des recherches des chercheuses occidentales sur les femmes du sud global. Il y a parfois des tendances à les considérer comme une partie, à les extraire de leur société, les considérer comme une partie séparée de leur société. Donc les prisonnières palestiniennes font partie du mouvement des prisonniers plus large, mais ont la structuration de leur mouvement traverse des spécificités liées donc aux conditions particulières qu'elles vivent en prison. Les femmes palestiniennes ont participé depuis le début à la résistance anticoloniale palestinienne, d'abord contre la colonisation britannique et puis contre la colonisation sioniste. Mais malgré ça, ont été moins visées directement par les arrestations que les hommes, ce qui est en général globalement le cas. Donc les femmes en prison sont globalement beaucoup moins que les hommes, même en France et un peu partout. Le mouvement des prisonnières palestiniennes ses structures selon des spécificités. Donc les femmes ont été aussi pendant très longtemps dans les prisons avec des prisonnières israéliennes juives des droits communs. Donc une des premières revendications était le fait d'être reconnue en tant que prisonnière politique et séparée donc des prisonnières israéliennes juives des droits communs. Un autre élément qui caractérise le mouvement des prisonnières femmes est le fait qu'elles étaient donc réunies toutes dans la même prison pour la plupart, donc il y avait moins de transferts entre une prison et l'autre et donc moins de possibilités en même temps de se coordonner avec les autres prisonniers. Et aussi le fait que les femmes ont été toujours prioritaires dans tous les échanges des prisonniers, ce qui créait du coup des difficultés dans la transmission des mémoires des luttes et de l'organisation du mouvement des prisonnières, ce qui n'avait pas été le cas chez les hommes, où il y a des hommes qui sont en prison pendant 40 ans, depuis 40 ans, et donc il y a une transmission de l'organisation et des luttes qui est plus facile, paradoxalement.
تحمس أمل لنفسها ونسمعها لضيق المكان اللي خلانا نصبر انه فيش غير
Amal se murmure à elle-même. Et comme la pièce est petite, nous parvenons à l'entendre. Nous sommes déterminés parce que nous n'avons rien d'autre que notre détermination. Derrière cette phrase remplie d'humilité, Amal transforme chaque matin l'existence en quelque chose qui a du sens. L'héroïsme est le pont qui relie les demandes des femmes détenues pour de meilleures conditions de vie, comme des téléphones à usage collectif, le retrait des caméras de surveillance, le traitement de l'humidité, à leur refus absolu des prisons. Il relie le rêve des prisonniers de reconquérir leur terre à leur incapacité de posséder la cellule dans laquelle ils vivent ou même de changer la couleur de ses murs. Et au détour d'une plaisanterie estivale, la volonté lie votre envie de savourer une pastèque à votre envie de savourer la liberté. La volonté, c'est le besoin de forger une alternative à la réalité d'aujourd'hui, de façonner un paradigme différent, de créer un imaginaire qui dépasse le présent tangible. C'est la condition pour qu'un fil relie nos diversités géographiques, intellectuelles et sociales, et pour relier notre héritage à notre avenir.
Et donc il y a justement différentes générations qui se suivent dans les prisons israéliennes, selon aussi ces échanges qui permettent la libération de la plupart des prisonnières. Pour donner quelques exemples, donc la première génération, donc la génération des années 70, il s'agissait principalement des femmes à la fois de la gauche palestinienne ou puis du Fatah, qui s'étaient entraînées par exemple dans les camps des Fedaïn au Liban, en Jordanie, qui revenaient en Palestine, en menant des actions militaires et qui avait une forte conscience politique déjà de base, qui puisait aussi dans une culture des luttes anticoloniales de l'époque. Et donc c'est au sein de la prison que leurs convictions politiques se renforcent, évoluent, se partagent, etc. En 79, il y a le premier échange qui permet la libération de beaucoup de femmes, notamment celles qui menaient un peu le mouvement qui était les représentantes des prisonnières, etc. Et donc chaque fois, il y a les nouvelles, enfin celles qui restent, qui prennent en charge la restructuration du mouvement. Il y a un nouvel échange qui permet une libération en 83, et puis dans les années 80, qui coïncide avec la première intifade en 87, les arrestations augmentent largement et concernent toute la société civile palestinienne. Donc il y a des femmes qui sont arrêtées parce qu'ont cousu des drapeaux palestiniens, parce qu'elles ont tenu des écoles, elles ont accueilli dans leur maison des enfants pour leur faire cours alors que toutes les écoles avaient été fermées par l'occupation, pour avoir participé à des manifestations, mais aussi pour leurs liens familiaux, parce que dans une vision assez orientaliste et patriarcale, il y avait cette idée d'arrêter la sœur, la femme, la fille ou la mère de quelqu'un pour l'obliger à se rendre, dans une idée que l'homme palestinien ne pourrait jamais accepter de ne pas protéger sa femme, de la laisser en bali de l'occupant. Et au contraire, on a des témoignages, des messages de mères qui, depuis, à travers les avocats ou à travers la radio, disent à leurs fils en clandestinité, reste caché, si tu te rends pour me sauver, je ne vais plus te reconnaître en tant que fils, et que donc, au contraire, inciter le fils ou le mari à continuer à poursuivre la lutte. Dans les années 80, les femmes obtiennent donc leurs revendications qui sont la séparation des prisonnières israéliennes, mais aussi l'arrêt de tout type de travail à profit de l'occupation, parce qu'elles étaient obligées de coudre les uniformes pour l'armée, de cuisiner pour l'administration pénitentiaire, etc. Et ça, c'est une anecdote qui est importante, que je tiens à raconter, parce que c'est représenté par toutes comme une victoire et comme un élément fondamental du mouvement des prisonniers en général. C'est le fait qu'au moment des accords d'Oslo, quand il y a les négociations pour donc, la libération des prisonniers et des prisonnières, la plupart des prisonniers hommes sortent de prison, mais 350 restent. En ce qui concerne les femmes, quand l'officier arrive en prison pour dire que toutes les femmes vont sortir, sauf 5 accusées d'avoir tué des soldats, elles se réunissent et décident collectivement de refuser cette libération. De refuser cette libération parce que, comme elle disait, c'est une cause collective et donc la libération devait être collective. Donc il y avait des femmes qui étaient condamnées à 15 ans de prison et qui acceptent donc de rester en prison pour lutter pour la libération de toutes les autres. Et donc, au bout de 16 mois de grève, dans lesquels elles refusent toute tentative de les sortir de force, elles obtiennent, au bout de 16 mois, la libération de toutes les femmes. Donc, en 1997, il n'y a plus aucune femme palestinienne qui se retrouve dans les prisons. Et cet événement, qui est vraiment présenté comme un pilier de l'histoire du mouvement, est très peu transmis aussi au sein de la société palestinienne. Et justement, certaines prisonnières ont dit que s'il y avait eu cette transmission, lors des échanges successifs, peut-être il y aurait eu aussi des formes de lutte de la part des femmes pour refuser que certaines, d'en laisser certaines derrière elles.
بكونها استيرادا للإنسانية هي التي تجعل التحقيق والبوسطة والقمع والعزل مواجهة.
En tant que restauration de l'humanité, la volonté est ce qui fait des interrogatoires, des camions de transfert des prisonniers, de la répression et de l'isolement, des lieux de confrontation. C'est votre seul moyen de ne pas être transformé en un objet monstrueux que l'on traîne et que l'on enchaîne. La volonté, c'est garder votre capacité de prise de décision lorsqu'ils vous imposent les leurs, où s'asseoir, quand se lever, quand quitter la cellule, pour 5 heures et pas plus, quand prendre un bain. Quelles sont les 10 chaînes de télévision que vous avez le droit de regarder, les livres que vous pouvez lire et le nombre de minutes pendant lesquelles vous pouvez voir votre mère. La volonté, c'est le refus de leurs chiffres et le refus d'en devenir un.
Après, il y a la deuxième intifada, donc les arrestations réaugmentent. Et il y a plus de prisonnières du Hamas et du djihad islamique qui rentrent en prison, en modifiant ainsi les équilibres au sein du mouvement des prisonnières, dans le sens où le mouvement s'organisait aussi en comité. Donc il y avait des élections, il y avait un comité qui gérait la bibliothèque, il y avait un comité qui gérait l'accueil des prisonnières, un comité qui gérait la cuisine, un comité pour gérer les affaires, les tensions internes et ne jamais s'adresser à l'administration pénitentiaire. Et donc, vu qu'il y avait des élections, le fait qu'il y ait plus des prisonnières du Hamas et du djihad islamique joue a un impact sur les équilibres et sur les différentes représentantes qui à ces moments-là sont en prison. Et puis bah, en 2011, il y a l'échange Chalit. Donc il y a presque toutes les femmes qui sortent, notamment, sauf trois, des Palestiniens des 48, donc des Palestiniennes qui ont la citoyenneté israélienne, qui sont exclues en raison de cette citoyenneté. Et les mouvements donc, se reconstruisent en étant portés par celles qui restent. Il y a, dans les années, on va dire 2015-16, il y a beaucoup de jeunes femmes qui rentrent en prison suite à des tentatives abouties ou non, ou à des accusations d'attaque au couteau ou avec des ciseaux, vraiment des collières, face à des soldats surarmés. Beaucoup de ces femmes rentrent blessées, des jeunes femmes rentrent blessées en prison. Et ce sont des adolescentes, pour la plupart, avec une préparation politique moins, moins forte. Et c'est justement en prison où la rencontre avec des militantes associatives, des syndicalistes arrêtés dans le cadre des campagnes répressives israéliennes dans les années 2000 qui visent, dans les 2020 qui visent les associations comme les associations Adamir al-Haq, l'association des femmes palestiniennes, l'association de l'agriculture et celle une association de santé. Elles sont toutes déclarées des associations terroristes, donc les membres de ces associations sont arrêtés. Et cette rencontre permet aussi pour des partages d'expériences, des formes de pédagogie au sein des prisons qui permet de restructurer le mouvement et donc de reconstruire un collectif de lutte.
Nous pouvons vivre en prison parce que nous avons déformé et pénétré le sens de ce lieu, refusant qu'il soit un cercueil. Nous nous habillons chaque matin en faisant mine que la foura, la promenade quotidienne d'une heure autorisée dans la cour de la prison, soit un voyage. Nous imaginons que lorsque nous sommes assis sur les marches en pierre, nous sommes assis sur un balcon et nous préparons du thé et des graines pour cela. Les bouteilles d'eau sont devenues des haltères pour la salle de sport que nous avons ouverte. L'une des pièces a été transformée en théâtre pour célébrer nos soirées communautaires et quelques livres sont devenus une bibliothèque. La prison veut vous isoler de votre peuple et de votre patrie, tout comme elle veut vous éloigner de votre idéal qui consiste à croire que la prison est le lieu de villégiature des rêveurs. Elle veut également vous éloigner des autres prisonniers et de leur héritage, en prétendant que le retrait d'un privilège est le résultat d'un mauvais usage de ce privilège par d'autres prisonniers. Mais vous, extrêmement reconnaissant, vous savez que sans les années de lutte et de sacrifice, la vie en prison n'aurait jamais été supportable.
مدركا أنه لولا أعوام من النضال والتضحية لما كانت حياة السجن ممكنة لك.
La question de l'éducation en prison, de la formation en prison, c'est une question qui est vraiment un élément central dans le récit aussi des prisonniers, hommes et femmes. C'est cette phrase de dire on a transformé la prison en école, en université, c'est une phrase qu'on entend beaucoup en Palestine. Et notamment chez les hommes, c'est quelque chose de très institutionnalisé. C'était toujours, je parle toujours de avant le 7 octobre, c'était quelque chose de très institutionnalisé, où dans certaines prisons, il y avait donc des enseignants qui avaient des doctorats et donc faisaient des cours avec des masters qui étaient reconnus par les différentes universités, etc. Chez les femmes, la question était différentes pour différentes raisons et en particulier en raison du nombre inférieur des femmes en prison. Mais cette question de l'éducation et de transformer la prison en lieu de formation est centrale, a été un élément central dans la structuration du mouvement des prisonnières aussi depuis le début. Et donc, depuis le début, par exemple, il y avait des cours d'alphabétisation pour toutes les femmes qui ne savaient pas lire ni écrire en prison. Ça veut dire que c'était, comme disait une des anciennes prisonnières, que c'était interdit de ne pas partager son savoir avec les autres. C'était vraiment... il y avait des cours d'alphabétisation qui étaient avec des prisonnières qui accompagnaient les prisonnières analphabètes dans leur processus d'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Donc les femmes, ça j'avais oublié, mais c'est important, les femmes palestiniennes, et justement en prison, ayant été moins que les hommes, ça a eu aussi comme effet le fait d'avoir une organisation dans la prison qui était assez transversale, qui n'allait pas reproduire les différences entre les différents partis, parce que les hommes, ils avaient obtenu dans les années 80 d'être répartis dans les différentes sections de la prison selon leur appartenance au parti. Donc il y avait l'aile de Fatah, du Front Populaire, du Hamas, du Jihad Islamique, etc. Les femmes, pendant très longtemps, se sont organisées ensemble de façon transversale. Mais en même temps, donc, les contenus de cours reflétaient le profil des différentes femmes. Donc dans les années 70, il y avait beaucoup... il y avait des cours de... Il y avait des cours d'histoire, des cours des sciences politiques, il y avait aussi des cours de mathématiques. À cette époque, il y avait aussi des prisonnières qui venaient d'ailleurs, qui se retrouvaient, des internationalistes qui se retrouvaient en prison. Et donc, il y avait des cours de français, d'hollandais. Les prisonnières qui parlaient hébreu partageaient, donc enseignaient l'hébreu. Et au fur et à mesure... Il y a dans les dernières années, par exemple, notamment depuis que Khaled Jarrah est rentré en prison, donc en 2015, Khaled Jarrah, c'est une militante du Front Populaire de la Libération pour la Palestine, une ancienne membre du Conseil législatif palestinien, une féministe qui a été arrêtée à plusieurs reprises depuis 2015. Elle a passé que quelques mois en dehors de prison, toujours placée en détention administrative, donc sans chef d'inculpation, sans accusation. Et c'est un peu à partir de ces moments qu'elle a porté la construction au sein de la prison de certaines formations, notamment le bac, le passage du bac en prison, un cours des droits internationaux en prison, ainsi qu'une licence, c'était la première licence en travail social mise en place. Tout ça, ce n'était pas des concessions, donc tout ça, c'était des formations qui ont été mises en place en clandestinité. Et donc, ça veut dire que les livres rentraient à travers des stratagèmes, parce qu'en fait, les livres culturels, les livres éducatifs étaient les plus censurés en prison. Donc, dès qu'il y avait un livre de mathématiques ou de littérature arabe qui essayait de rentrer, l'administration pénitentiaire interdisait l'accès. Et donc, bon, ça, on l'a raconté, je me souviens plus si ça a été coupé, parce que de toute façon, en traitant, ça a été découvert, donc je le raconte. Mais ce qu'elle faisait, c'était que les familles allaient prendre des grands romans d'amour, des grands pavés d'amour, et en fait, entre page 20 et page 30, mettaient le manuel de sociologie, entre page 30 et 50, le manuel d'histoire, etc. Et c'était comme ça que donc, les livres arrivaient à rentrer dans les prisons, et que dans chaque cellule, les prisonnières allaient recopier tous ces manuels pour en avoir des copies en cas de confiscation et pour faire circuler ces copies. Il y avait aussi pas seulement le fait de copier les manuels, mais c'était aussi le fait de créer des manuels à partir de rien, parce que quand la licence a été acceptée, donc c'était à travers les avocats, il y avait toutes des procédures à faire pour que cette licence soit acceptée par le ministère de l'éducation palestinienne dehors, tout en restant cachée d'une certaine façon à l'administration pénitentiaire à l'intérieur. Et donc, par exemple, ils avaient donc les programmes de l'université Al-Quds Maftouha, qui était l'université partenaire, sauf qu'il n'y avait pas le matériel, donc elles n'avaient pas les matériels sur lesquels étudier. Et donc, il y avait, comme je disais, les prisonnières s'organisent par comité, donc il y avait le comité éducatif qui élaborait les programmes des cours à différents niveaux, donc justement du niveau de l'alphabétisation jusqu'au niveau universitaire, et qui donc allait créer des manuels. Et ces manuels étaient créés à partir à la fois des souvenirs des cours des étudiantes de sociologie de l'université de Birzeit, de celles qui avaient été profs, des informations des émissions radio qu'elle prenait en note, des programmes à la télévision. Et donc, à partir de tout cela, elle créait des... Ou même, elles allaient chercher dans les romans historiques des informations pour les mettre dans les manuels. Et donc, elle créait ces manuels à partir de rien. Et c'était des manuels qui, après, étaient recopiés et circulés d'une cellule à l'autre. Et en fait... Comme beaucoup de prisonniers, enfin en tout cas, et ça je pense que c'est important de citer justement les prisonnières que j'ai interviewées, pas seulement comme des sources d'informations, mais aussi comme des sources théoriques. Et donc il est important pour moi de dire que moi j'avais commencé en me disant que je voulais travailler sur comment les prisonnières ont transformé la prison en école. Et c'est en discutant avec beaucoup de mes interlocutrices, et notamment Layane Kayet, qui est une jeune femme est sortie des prisons récemment et qui étudie à Birzeit, à l'université de Birzeit. L'idée que ce qui est produit, la pédagogie produite en prison n'est pas juste la transposition du système scolaire qui existe dehors, mais c'est vraiment essayer de créer, de mettre en place des nouvelles relations pédagogiques, des nouvelles pratiques pédagogiques et de mettre en place vraiment ce qui est une éducation libératrice qui permet aussi même de redéfinir le concept de savoir et d'éducation dans un contexte colonial et dans un objectif de libération. Et donc, c'était justement le fait de devoir aussi partir. Enfin, elle disait comment enseigner, par exemple, quand Khel Dajarlar, elle a réussi à faire rentrer toujours clandestinement la Convention de Genève, tous les accords, les textes du droit. Comment pouvoir enseigner ces textes à des femmes qui étaient semi-analphabètes, certaines, à d'autres qui n'étaient jamais sorties du village. Et donc c'était toujours ce lien entre les conditions matérielles qu'elles vivaient, leurs conditions qu'elles vivaient et la théorie qu'elles étudiaient. Donc elles faisaient des cours, elles étudiaient par exemple un texte de loi et puis elles l'appliquaient à tout ce qu'elles vivaient quotidiennement. Donc c'était vraiment un travail aussi pour conscientiser toutes les relations de domination qui les traversaient et réfléchir à comment lutter contre. Et c'est bon.
في يوم الرابع من شهر أبريل سنة 2021, سرب طيور يعبر سماء السجن.
Le 4 avril 2021, une nuée d'oiseaux survole le ciel de la prison, rompant la grisaille de ses ombres. Nouran note cette visite dans un carnet qu'elle garde pour les événements rares. À sa grande surprise, elle découvre que les oiseaux ont survolé la prison le même jour l'année dernière. Nouran n'a pas de carte pour suivre la route des oiseaux, et elle ne peut les observer que lorsqu'elle se tient sur la pointe des pieds et s'étire vers le haut. Elle documente néanmoins la migration des oiseaux d'une année sur l'autre, à partir du même endroit. Qui donc documentera la misère de ce monde ?
فمن يوثق تعاسة هذا العالم؟
Donc avec l'arrivée, enfin surtout au début, lors de la deuxième intifada, avec l'arrivée en prison des militants du Hamas et du Jihad islamique, il y a eu des moments de tension interne. Et ces moments de tension interne, ce sont des moments qui sont souvent exploités par l'administration pénitentiaire. Notamment une des raisons. Notamment en ce qui concerne les femmes encore plus, la prison c'est aussi un lieu, c'est aussi un des seuls lieux où peuvent se retrouver par exemple des prisonnières de Gaza, de Jérusalem, avant le 7 octobre, de Gaza, de Jérusalem, de Cisjordanie, qui jamais ne peuvent se rencontrer. Et c'est aussi un lieu où elles sont forcées de s'organiser ensemble. Il y a aussi une circulation, une organisation qui va au-delà des différences entre les parties. En effet, ça a eu un impact sur les contenus. Quand la majorité des prisonnières étaient du Jihad islamique et du Hamas, les contenus étaient beaucoup plus sur l'analyse des textes religieux. Mais c'était aussi des débats sur la place de la femme dans la lutte, en se basant sur des textes religieux. Une prisonnière racontait de comment elle essayait de convaincre, en citant l'exemple d'Aïcha, une des femmes du prophète, qui avait conduit une bataille, de la légitimité, de la participation des femmes dans la lutte, et aussi de leur rôle dans la société, etc. Mais les références étaient en effet plutôt plus des textes religieux. En même temps, notamment dans les dernières années, vu, encore une fois, il n'y avait pas une séparation forcément selon les partis, mais selon d'autres formes. Et par exemple, il y avait une cellule où il y avait un peu les anciennes ou les leaders du mouvement, où il y avait des femmes du Front Populaire, du FPLP, des femmes du djihad islamique, qui s'organisaient ensemble. Le système, en vrai, ces cours dont je parlais, mis en place par Khalida Jarrar, ont été faits aussi grâce à Lina Jarbouni et à Mouna Kaadan, qui, elles, sont du djihad islamique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout des tensions, mais qu'elles arrivaient quand même à faire coexister aussi différentes références. Khalida a rigolé, elle se moquait un peu d'une de ses camarades de prison qui avait sursauté quand elle avait vu qu'elle avait mis son livre de littérature soviétique juste à côté du Coran et qu'en fait elle lisait un peu l'une, un peu l'un, un peu l'autre. Et une des actions faites juste après le 7 octobre par l'administration pénitentiaire, c'était justement d'annuler toute forme chez les hommes, surtout de répartition selon les partis, et donc de mettre tous ensemble, de recréer les cellules et de faire exprès de mettre ensemble ceux qui s'est rassemblés le moins. Donc, par exemple, la femme, les jeunes universitaires qui avaient les tatouages et les piercings avec une femme très religieuse, etc. Et donc, l'objectif, c'était justement de créer des tensions internes. Et ce que, quand même, beaucoup de femmes ont expliqué, c'était qu'au début, c'était très compliqué, c'était un peu incommunicable, mais qu'au fur et à mesure, étant 23 heures sur 24 ensemble, cela te permet de vraiment t'ouvrir aussi aux autres, de discuter avec les autres, et aussi, c'est une occasion, elle disait, d'être avec des gens avec qui jamais, qu'on ne côtoierait jamais dans notre vie. Et ce qui permet aussi, en imaginant toujours, parce que ça, ça reste quand même un imaginaire présent, en imaginant une Palestine libre, ça part aussi de là, de ces rencontres qui ont eu lieu en prison, de ces façons d'essayer de se comprendre, de communiquer, d'accepter aussi des points de vue complètement différents. Et en effet, souvent, les prisonnières disent qu'elles arrivent, une fois sorties de prison, à jongler entre des points de vue très différents et à pouvoir être médiatrice dans tout ça.
Nourhan تضع كرسيا في منتصف الغرفة لتمشط شعر ياسمين التي تصف لنورهان. وبشغف التغييرات في القدس، عائشة وإسراء تجلسان على عتبة الغرفة.
Nourhan place une chaise au milieu de la pièce pour coiffer Yasmine, qui lui décrit avec passion ce qui a changé à Jérusalem. Aïcha et Isra sont assises sur le seuil de la pièce et saluent les personnes présentes dans la cour en buvant du café. Malak tournoie dans sa nouvelle robe après une visite de sa mère. Le visage de Malak, épargné par les coups de la vie, conserve ses traits de bébé. Rawan décrit ce qui se trouve devant elle et tout ce qu'elle dit devient poésie sans qu'elle s'en rende compte. Anar marche de long en large dans la cour, la main sur son ventre où se trouve le bébé attendu. Chorouk fête son 24e anniversaire en écrivant une lettre à sa mère. Et Kitam enseigne aux dames la couture tout en les écoutant parler de leurs soucis dans la vie.
Kitam تعلم الصبايا رتق ملابسهن وهي تزغي الى همومهن.
Alors en effet, on n'a pas abordé les prisonnières de Gaza après 7 octobre parce que on a très peu d'informations, même les associations, même Ad-Damir, les associations locales ont très peu d'informations, justement parce qu'il y a cette loi qui est la loi du combattant illégal, et donc qui permet de faire disparaître des gens, permet de garder quelqu'un sans que l'avocat ait des nouvelles, sans que la famille ait des nouvelles. Donc il y a plusieurs prisonnières qui sont totalement disparues, dont personne n'a des nouvelles, personne n'a les chiffres, etc. Les témoignages des viols de groupe vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes dans la prison des Zdeteman et dans d'autres camps. Ce sont des témoignages qui sont sortis depuis le début, depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre, qui, comme arrive souvent, ont eu besoin de la confirmation d'associations israéliennes des droits humains ou d'associations des droits humains tout court pour qu'elle soit entendue, mais ce sont des témoignages que dans la société palestinienne ont commencé à circuler dès le 7 octobre. Et notamment, toutes ces vidéos qui ont fuité et que parfois on a l'impression qu'ils ont fuité par hasard, c'est plutôt aussi une campagne qui existait, enfin qui existe souvent dans des situations coloniales, de mettre en scène toute la violence contre les corps décolonisés. Ça s'est passé en Italie pendant la colonisation de la Libye, ces photos des corps torturés en Algérie. Et c'était pareil, quand Ben-Gvir fait des selfies avec des prisonniers torturés derrière, ce sont des vidéos qui ne fuitent pas, ce sont des vidéos qui sont mises pour un sens de revanche, pour célébrer la superpuissance israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Donc il y a des témoignages de viols, et notamment, en ce qui concerne la question des viols, le viol a été utilisé depuis le début contre les femmes prisonnières palestiniennes, contre les premières générations. Aïcha Aoud et Rasmi Aoud, qui sont deux femmes de la première génération, ont subi des viols. Et ça fait aussi partie de toute une vision orientaliste israélienne qui justement utilise la question de l'honneur du corps de la femme pour faire pression aux femmes prisonnières et viser toute la communauté, toute la famille. Et donc la question des menaces de viol, c'est une question qui arrive toujours, qui est toujours arrivée, même avant le 7 octobre. Il y a aussi une pratique qui du coup a même un terme en arabe, en palestinien, qui c'est iskat siyasi, et ça veut dire faire des photomontages des femmes qui couchent avec des soldats et les envoyer dans leur communauté, dans leur village, etc. Et en même temps, si cela a contribué pendant un moment à mettre à l'écart ou en tout cas à ce que la femme prisonnière puisse avoir une position plus ambiguë que l'homme qui sort des prisons de la société, il y a eu tout un travail mis en place par les femmes prisonnières, des mises en récit aussi de ces viols qu'elles ont subis, pour revendiquer pour délier l'honneur du corps de la femme et revendiquer l'honneur du corps de la femme qui résiste. Et donc Aïcha Aoud, en 2004, donc 25 ans après, elle a mis en récit, elle a écrit un livre, son autobiographie, dans laquelle elle met en récit le viol qu'elle a subi. Elle a présenté dans plusieurs occasions, c'est un livre qui a été lu par les prisonnières en prison. Il y a des tournées des prisonnières qui vont dans les écoles à préparer les jeunes à l'arrestation. Et par exemple, il y a vraiment aussi des moments de discussions publiques dans lesquelles des prisonnières discutent de comment aussi essayer de résister, de ressignifier ce qu'elles subissent en prison, en se fondant de certaines façons dans un corps collectif et en se disant que ce n'est pas leur corps qui est visé, mais c'est un corps collectif, c'est une cause, c'est tout. Et donc en puisant la force de tous ceux et celles qui les ont précédés et celles qui vont les suivre en prison. Donc il y a eu des témoignages de viol, et le fait aussi que la parole s'ouvre sur ces témoignages, ça c'est une hypothèse, mais je pense que c'est aussi grâce à tout ce travail qui a été fait par les femmes prisonnières palestiniennes de mise au récit de tout ça et des réflexions, des ressignifications sur les tortures sexuelles, comment y résister, quelles sont ces significations. Mais en tout cas, il y a eu des preuves et des témoignages.
Non seulement vous êtes loin de votre famille et de votre patrie, mais la prison elle-même est éloignée et exilée de la planète et de ses contextes géographiques et environnementaux. Le plus grand des mensonges est de considérer la prison comme une adresse. Nous sommes à Haïfa, mais nous ne la voyons pas. Nous sommes sur ce sol où les arbres et les fleurs poussent, mais nous ne les regardons pas. Où les animaux vivent, mais nous ne pouvons pas les regarder. Un chat nous rendait visite de temps en temps. Le degré d'amour que nous lui portions était litigieux et controversé, malgré les efforts désespérés de Yasmine pour rendre le chat populaire. Nous étions néanmoins heureux qu'un être vivant se soit infiltré dans les murs pour nous voir et que nous puissions le voir en retour. Cependant, le pauvre chat a involontairement révélé des brèches dans la clôture qui ont donc été réparées et il a cessé de nous rendre visite. Ce chat restera notre dernière preuve que nous sommes sur la même planète que lui, même s'il lui arrive de nous observer depuis le haut de la clôture sans la franchir.
À partir du 7 octobre, les prisons sont devenues un autre front, un autre lieu dans lequel se déploient les pratiques génocidaires israéliennes. Dès le 7 octobre, les premières réactions israéliennes ont été justement contre les prisonniers et les prisonnières, aussi parce que Un des objectifs affichés des attaques du Hamas de 7 octobre était la libération, obtenir la libération des prisonniers et des prisonnières. Donc, dès le 7 octobre, par exemple, au sein des prisons des femmes, la représentante des prisonnières a été isolée et transférée dans une autre prison. Toutes les cellules ont été fermées. Donc il y a eu pendant très longtemps plus de promenades. Maintenant, il y a juste une heure de promenade, mais qui est aussi le moment où les femmes peuvent aller prendre des douches parce que étant une prison construite à l'époque du mandat britannique, une prison, celle où se trouvent les femmes, qui est la prison de Damon, c'est une prison insalubre qui avait été utilisée pour conserver le tabac, donc qui avait été faite pour être humide. Elles ont qu'une heure de promenade. Tout ce qui avait été obtenu à travers des grèves et des luttes des prisonniers et des prisonnières a été confisqué. Donc toutes les couvertures, tous les livres, tous les papiers, tous les stylos, tous les appareils électroniques, donc la radio, etc. Toutes les serviettes hygiéniques ont été confisquées. Il y a les vêtements. Donc pendant des mois et des mois et des mois, les femmes portaient les mêmes vêtements, donc les lavaient et le remettaient humide parce qu'elles n'avaient pas d'échange. Et il y a eu, chez les hommes et chez les femmes, des passages à tabac constants, des attaques avec les chiens, avec les gaz, des viols, des menaces de viols, des formes d'harcèlement sexuel. Et toutes ces pratiques ne sont pas des pratiques qui sont nées après le 7 octobre, ce sont des pratiques qui sont nées avec la création de l'État colonial israélien et avec la création de ces prisons coloniales, mais qui se sont intensifiées après le 7 octobre et qui sont même qui font aussi partie d'une politique qui avait été préconisée avant le 7 octobre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Ben-Gvir qui s'occupe des prisons. Et donc, d'une certaine façon, beaucoup de prisonniers, ou en tout cas, il y avait un peu cette idée que le mouvement des prisonniers et des prisonnières tel qu'on l'avait connu n'existe plus. Mais en même temps, comme toujours, il y a quand même des formes de résistance qui émergent et qui s'adaptent aux nouvelles conditions matérielles, aux nouvelles tortures. Les femmes, par exemple, donc il y avait des formes d'éducation qui continuaient alors qu'il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus de stylo. Et que, par exemple, donc elle ne pouvait plus circuler d'une cellule à l'autre. Khaleda Jadar, avant de passer 6 mois en isolement, Khaleda, elle fait une recherche sur les prisonnières palestiniennes à l'université de Bir Zeit avec des étudiants de master qui ont été eux-mêmes des anciens prisonniers. Et donc, quand elle était depuis sa cellule, en parlant à partir de la petite fenêtre de la cellule, elle essayait de faire une analyse quantitative des classes sociales présentes en prison. Et donc, en criant, elle faisait une espèce de petit sondage, et avec le seul bout de papier qu'elle avait réussi à obtenir et un stylo qui avait été volé à une gardienne, notait les résultats. Il y avait Ikhlas, qui était appelée la Hikawatiya de la prison, donc la conteuse de prison, qui chaque matin se levait, et toujours par cette même fenêtre, chantait une chanson populaire, un conte populaire palestinien. Et tout cela, ça menait après des formes de répression, des passages à tabac, mais c'était ça. Chaque matin, il y avait cette voix qui était entendue dans toutes les cellules. Ou par exemple, du coup, justement, ce moment de promenade qui est le seul moment pour voir la lumière était utilisé pour continuer de partager les discussions autour d'un livre, le seul livre qui était resté en prison. Et donc il y a des formes qui continuent malgré tout, parce que il y a toujours de nouvelles formes de résistance qui émergent en prison et en dehors, jusqu'à la libération de toutes et tous les prisonniers.
Maintenant, je dis au revoir à la prison et au texte, la prison qui, pour moi, a acquis des caractéristiques et des traits et a été associée à des personnes et à des récits. Ce n'est pas mon départ qui me rend triste. La tristesse vient plutôt du fait que la prison est toujours là, que je connaisse ou non les femmes qui s'y trouvent. La misère, c'est l'existence des prisons, même si tout le monde était libéré. Je dis également au revoir à ce texte qui est resté fidèle malgré son impuissance.
على الرغم من عجزي.
Merci à Hélène Servelle et à Sia Zaino. Merci aux amis du monde diplomatique.
Aux camarades acharnés de Samidoun pour l'édition et les traductions du texte de Layan Kayed et des autres prisonniers et prisonnières de Palestine.
Et merci à Chacha pour la lecture.
Vive la Palestine. À bientôt.